Une rose pour Émilie, William Faulkner. Quand Miss Emily Grierson mourut, toute notre ville alla à l'enterrement. Les hommes, par une sorte d'affection respectueuse pour un monument disparu. Les femmes, poussées surtout par la curiosité de voir l'intérieur de sa maison, que personne n'avait vu depuis 10 ans, à l'exception d'un vieux domestique, à la fois jardinier et cuisinier. C'était une grande maison de bois carré qui, dans le temps, avait été blanche. Elle était décorée de coupoles, de flèches, de balcons ouvragés, dans le style lourdement frivole des années 70, et s'élevait dans ce qui avait été autrefois notre rue la plus distinguée. Mais les garages et les égrèneuses à coton, empiétant peu à peu, avaient fait disparaître jusqu'au nom Auguste de ce quartier. Seule, la maison de Miss Emily était restée, élevant sa décrépitude entêtée et coquette au-dessus des chars à coton et des réservoirs à essence. Elle n'était plus la seule à outrager la vue. Et voilà que Miss Emily était allée rejoindre les représentants de ses augustes noms dans le cimetière assoupi sous les ifs, où ils gisaient parmi les tombes alignées et anonymes des soldats de l'Union et des confédérés morts sur le champ de bataille de Jefferson. De son vivant, Miss Emily avait été une tradition, un devoir et un souci, une sorte de charge héréditaire qui pesait sur la ville depuis ce jour où, en 1894, le colonel Sartoris, le maire, celui qui lança l'édit interdisant aux négresses de paraître dans les rues sans tablier, l'avait dispensé de payer les impôts, dispense qui datait de la mort de son père et s'étendait jusqu'à perpétuité. Non que Miss Emily eût jamais accepté qu'on lui fît la charité. Le colonel Sartoris avait inventé l'histoire compliquée d'un prêt d'argent que le père de Miss Emily aurait fait à la ville et que la ville, pour raison d'affaires, préférait rembourser de cette façon-là. Il n'y avait qu'un homme de la génération et avec le cerveau du colonel Sartoris pour avoir pu imaginer une chose pareille, et il n'y avait qu'une femme pour l'avoir pu croire. Quand la génération suivante, avec ses idées modernes, donna à son tour des maires et des conseillers municipaux, cet arrangement souleva quelques mécontentements. Le 1er janvier, ils lui envoyèrent une feuille d'imposition. Février arriva sans apporter de réponse. Ils lui envoyèrent une lettre officielle, la priant de passer, quand elle le jugerait bon, au bureau du shérif. La semaine suivante, le maire lui écrivit lui-même, lui offrant d'aller chez elle ou de l'envoyer chercher en voiture. En réponse, il reçut un billet où, sur un papier d'une forme archaïque, d'une écriture courante et menue à l'encre passée, elle lui disait qu'elle ne sortait plus du tout. La feuille d'impôt était incluse, sans commentaire. Le conseil municipal siégea en séance extraordinaire. Une députation se rendit chez elle et frappa à cette porte qu'aucun visiteur n'avait franchi depuis que, 8 ou 10 ans auparavant, elle avait cessé de donner des leçons de peinture sur porcelaine. Le vieux nègre la fit entrer dans un hall obscur d'où un escalier montait se perdre dans une ombre encore plus profonde. Il y régnait une odeur de poussière, de choses qui ne servent pas, une odeur de renfermé et d'humidité. Le nègre les conduisit dans le salon. L'ameublement en était lourd, les sièges couverts en cuir. Quand le nègre ouvrit les rideaux d'une des fenêtres, ils virent que le cuir était craquelé. Et quand ils s'assirent, un léger nuage de poussière monta paresseusement autour de leurs cuisses et, en lente volute, les atomes s'élevèrent dans l'unique ray de soleil. Près de la cheminée, sur un chevalet à la dorure ternie, se trouvait un portrait au crayon du père de Miss Emily. Ils se levèrent quand elle entra. Elle était petite, grosse, vêtue de noir avec une mince chaîne d'or qui lui descendait jusqu'à la taille et disparaissait dans sa ceinture. Et elle s'appuyait sur une canne d'ébène à paume d'or ternie. Son ossature était mince et frêle. C'est peut-être pour cela que ce qui, chez une autre, n'aurait été que de l'embonpoint, était chez elle de l'obésité. Elle avait l'air enflée, comme un cadavre qui serait resté trop longtemps dans une eau stagnante. Elle en avait même la teinte blafarde. Ses yeux, perdus dans les bourrelets de sa face, ressemblaient à deux petits morceaux de charbon enfouis dans une boule de pâte, tandis qu'elle les promenait d'un visage à l'autre en écoutant les visiteurs présenter leurs requêtes. Elle ne les invita pas à s'asseoir. Elle se contenta de rester debout sur le seuil, attendant tranquillement que le porte-parole se soit arrêté, balbutiant. Ils purent entendre alors le tic-tac de la montre invisible attachée à la chaîne d'or. Sa voix était sèche et froide. « Je n'ai pas d'impôts à payer à Jefferson. » Le colonel Sartoris me l'a expliqué. Peut-être un d'entre vous pourra-t-il consulter les archives de la ville et vous donner à tous satisfaction. « Mais nous l'avons fait, nous sommes les autorités de la ville, Miss Emily. N'avez-vous pas reçu un avis du shérif, signé de sa main ?»« Oui, j'ai reçu un papier, » dit Miss Emily. « Il se croit peut-être le shérif. Je n'ai pas d'impôts à payer à Jefferson. » »« Mais il n'y a rien qu'il prouve dans les livres, il faut que nous... » »« Voyez le colonel Sartoris, je n'ai pas d'impôts à payer à Jefferson. » »« Mais Miss Emily... » Voyez le colonel Sartoris. Il y avait près de 10 ans que le colonel Sartoris était mort. Je n'ai pas d'impôts à payer à Jefferson. Toby ! Le nègre apparut. Raccompagne ces messieurs. Ainsi, ils furent vaincus, bel et bien, comme l'avait été leur père, 30 ans auparavant, au sujet de l'odeur. Cela se passait 2 ans après la mort de son père et peu de temps après que son amoureux, celui qui, pensions-nous, allait l'épouser, l'eût abandonnée. Après la mort de son père, elle sortit très peu. Après que son amoureux fut parti, on ne la vit pour ainsi dire plus. Quelques dames eurent la témérité d'aller lui rendre visite, mais elles ne furent point reçues et autour de la maison, il n'y eut d'autres signes de vie que le nègre, jeune à cette époque, qui entrait et sortait avec un panier de marché. Comme si un homme, quel qu'il soit, pouvait tenir une cuisine en état, disaient les dames. Aussi, personne ne fut surpris quand l'odeur se fit sentir. Ce fut un nouveau lien entre le monde prolifique et grossier et les grands et puissants Grierson. Une voisine alla se plaindre au maire, le juge Stevens, âgé alors de 80 ans. « Mais que voulez-vous que j'y fasse, madame ? » dit-il. « Eh bien, envoyez-lui un mot pour que cela cesse, » dit la femme. « Est-ce qu'il n'y a pas de loi ?»« Je suis sûre que ça ne sera pas nécessaire, » dit le juge Stevens. « C'est sans doute tout simplement un serpent ou un rat que son nègre aura tué dans la cour. Je lui en dirai un mot. » Le lendemain, il reçut 2 autres plaintes. L'une émanait d'un homme qui se présenta timide et suppliant. « Il faut absolument faire quelque chose, monsieur le juge. Pour rien au monde, je ne voudrais ennuyer Miss Emily, mais il faut que nous fassions quelque chose. » Ce soir-là, le conseil municipal se réunit. 3 barbes grises et un jeune homme, un membre de la nouvelle génération. « C'est tout simple, » dit-il. Faites-lui dire de nettoyer chez elle, donnez-lui un certain temps pour le faire, et si elle ne... « Dieu me damne, monsieur !» dit le juge Stevens. « Prétendez-vous aller dire en face à une dame qu'elle sent mauvais ?» Alors, la nuit suivante, un peu après minuit, 4 hommes traversèrent la pelouse de Miss Emily et, comme des cambrioleurs, rôdèrent autour de la maison, reniflant le soubassement de briques et les soupiraux de la cave. Tandis que l'un d'eux, un sac sur l'épaule, faisait régulièrement le geste du semeur. Ils enfoncèrent la porte de la cave qu'ils saupoudrèrent de chaux, ainsi que toutes les dépendances. Comme ils retraversaient la pelouse, ils virent qu'une fenêtre, sombre jusqu'alors, se trouvait éclairée. Miss Emily s'y tenait assise, à contre-jour, droite, immobile comme une idole. Silencieusement, ils traversèrent la pelouse et se glissèrent dans l'ombre des acacias qui bordaient la rue. Au bout d'une quinzaine, l'odeur disparut. C'est alors que les gens commencèrent à avoir vraiment pitié d'elle. Les gens de la ville qui se rappelaient comment la vieille Madame White, sa grande-tante, avait fini par devenir complètement folle, trouvaient que les Grierson se croyaient peut-être un peu trop supérieurs, étant donné ce qu'ils étaient. Il n'y avait jamais de jeunes hommes assez bons pour Miss Emily. Nous nous les étions souvent imaginés comme des personnages de tableau. Dans le fond, Miss Emily est lancée, vêtue de blanc. Au premier plan, son père, lui tournant le dos, jambes écartées, un fouet à la main, tous les deux encadrés par la chambranle de la porte d'entrée, grande ouverte. Ainsi, quand elle atteignit la trentaine sans s'être mariée, je ne dis pas que cela nous fit vraiment plaisir, mais nous nous sentîmes vengés. Même avec des cas de folie dans la famille, elle n'aurait pas refusé tous les partis s'il s'était réellement présenté. À la mort de son père, le bruit courut que la maison était tout ce qui lui restait. Et d'un côté, les gens n'en furent pas fâchés. Ils pouvaient enfin avoir pitié de Miss Emily. Seule et dans la misère, elle s'était humanisée. Maintenant, elle aussi allait connaître cette vieille joie et ce vieux désespoir d'un sou de plus ou de moins. Le lendemain de la mort de son père, toutes les dames s'apprêtèrent à aller la voir pour lui offrir aide et condoléances, ainsi qu'il est d'usage. Miss Emily les reçut à la porte, habillée comme de coutume, et sans la moindre trace de chagrin sur le visage. Elle leur dit que son père n'était pas mort. Elle répéta cela pendant 3 jours, tandis que les pasteurs venaient la voir, ainsi que les docteurs, dans l'espoir qu'ils la décideraient à les laisser disposer du corps. Juste au moment où il allait recourir à la loi et à la force, elle céda. Et ils enterrèrent son père au plus vite. Personne ne dit alors qu'elle était folle. Nous croyons qu'elle ne pouvait faire autrement. Nous nous rappelions tous les jeunes gens que son père avait écartés et nous savions que, se trouvant sans rien, elle devait se cramponner à ce qui l'avait dépossédée, comme on fait d'ordinaire. Elle fut longtemps malade. Quand nous la revîmes, elle avait les cheveux courts, ce qui lui donnait l'apparence d'une jeune fille et une vague ressemblance avec les anges des vitraux d'église, quelque chose de tragique et de serein. La ville venait juste de passer les contrats pour le pavage des trottoirs et, pendant l'été qui suivit la mort de son père, on commença les travaux. La société de construction arriva avec des nègres, des mulets, des machines et un contremaître nommé Homer Barron, un Yankee, grand gaillard brun et décidé, avec une grosse voix et des yeux plus clairs que son teint. Les enfants le suivaient en groupe, pour l'entendre jurer contre les nègres qui chantaient en mesure, tout en levant et abaissant leurs pioches. Il ne tarda pas à connaître tout le monde dans la ville. Chaque fois qu'on entendait de grands éclats de rire sur la place, on était sûr qu'Homer Barron était au centre du groupe. On ne tarda pas à le voir, le dimanche après-midi, se promener avec Miss Emily dans le cabriolet du loueur de voiture avec ses roues jaunes et sa paire de chevaux bais. Tout d'abord, nous nous réjouîmes de voir que Miss Emily avait maintenant un intérêt dans la vie, parce que toutes les âmes disaient « Naturellement, une Grierson ne s'attachera jamais sérieusement à un homme du Nord, à un journalier. » Mais il y en avait d'autres, des gens plus âgés, qui disaient que même le chagrin ne devait pas faire oublier à une grande dame que « Noblesse oblige ». Sans appeler ça « Noblesse oblige ». Il se contentait de dire « Pauvre Émilie, ses parents devraient venir vers elle. » Elle avait des parents en Alabama, mais dans le temps, son père s'était brouillé avec eux au sujet de la succession de la vieille Madame White, la folle, et les deux familles avaient cessé de se voir. Personne n'était même venu à l'enterrement. Et aussitôt que les vieilles gens eurent dit « Pauvre Émilie », on commença à chuchoter « Comment, vous pensez que vraiment, disait-on ? Mais bien sûr, pour quelle autre raison voudriez-vous que ? » Cela derrière les mains, crissements de soie et de satin qui se tendaient pour apercevoir de derrière les jalousies fermées sur le soleil des dimanches après-midi. La paire de chevaux bais passant dans un léger et rapide clop, clop, clop. Pauvre Émilie. Elle portait la tête assez haute, même alors que nous pensions qu'elle était déchue. On eût dit qu'elle exigeait plus que jamais que l'on reconnût la dignité attachée à la dernière des Grierson. Il semblait que ce rien de vulgarité terrestre ne faisait qu'affirmer davantage son impénétrabilité. C'est comme au jour où elle acheta la mort au rat, l'arsenic. C'était plus d'un an après qu'on avait commencé à dire « pauvre Émilie » et pendant que ses deux cousines habitaient avec elle. « Je voudrais du poison », dit-elle au droguiste. Elle avait plus de 30 ans alors. Elle était encore mince, quoique plus maigre que d'habitude, avec des yeux noirs, froids et hautains, dans un visage dont la peau se tirait vers les tempes et autour des yeux, comme il semblerait que dût être le visage d'un gardien de phare. « Je voudrais du poison », dit-elle. « Bien, Miss Emily, quelle espèce de poison, pour des rats ou quelque chose de ce genre ? Je vous recommande, je veux le meilleur que vous ayez. Peu m'importe lequel. » Le droguiste en énuméra quelques-uns. Il tuera un éléphant, mais ce que vous voulez, c'est... De l'arsenic ? Dit Miss Emily. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que l'arsenic... Mais oui, madame, seulement ce que vous voulez. Je veux de l'arsenic. Le droguiste la regarda. Elle le dévisagea, droite, le visage comme un drapeau déployé. « Mais naturellement, » dit le droguiste, « si c'est ce que vous voulez, seulement voilà, la loi exige que vous disiez à quoi vous voulez l'employer. » Miss Emily se contenta de le fixer, la tête renversée, afin de pouvoir le regarder les yeux dans les yeux, si bien qu'il détourna ses regards et alla chercher l'arsenic qui l'enveloppa. Le petit livreur nègre lui apporta le paquet. Le droguiste ne reparut pas. Quand arrivée chez elle, elle ouvrit le paquet. Il y avait écrit sur la boîte, sous le crâne et les os en croix, « Pour les rats ». Aussi, le lendemain, tout le monde disait « Elle va se tuer ». Et nous trouvions que c'était ce qu'elle avait de mieux à faire. Au début de ses relations avec Omer Bayron, nous avions dit « Elle va l'épouser ». Plus tard, nous dîmes, elle finira bien par le décider, parce qu'Omer lui-même avait remarqué, il aimait la compagnie des hommes et on savait qu'il buvait avec les plus jeunes membres du Elks Club, qu'il n'était pas un type à se marier. Plus tard, nous dîmes, pauvre Émilie, derrière les jalousies, quand il passait, le dimanche après-midi, dans le cabriolet étincelant, Miss Emily, la tête haute, et Omer Bayron, le chapeau sur l'oreille, le cigare aux dents, les rênes et le fouet dans un gant jaune. Alors quelques dames commencèrent à dire que c'était là une honte pour la ville, et un mauvais exemple pour la jeunesse. Les hommes n'osèrent point intervenir, mais, à la fin, les dames obligèrent le pasteur Baptiste, la famille d'Émilie était épiscopale, à aller la voir. Il ne voulut jamais révéler ce qui s'était passé au cours de cette entrevue, mais il refusa d'y retourner. Le dimanche suivant, ils sortirent encore en voiture, et le lendemain, la femme du pasteur écrivit aux parents d'Émilie, en Alabama. Elle eut donc à nouveau de la famille sous son toit, et tout le monde s'apprêta à suivre les événements. Tout d'abord, il ne se passa rien. Ensuite, nous fûmes convaincus qu'ils allaient se marier. Nous apprîmes que Miss Emily était allée chez le bijoutier et avait commencé un nécessaire de toilette pour homme, avec les initiales HB sur chaque pièce. Deux jours après, nous apprîmes qu'elle avait acheté un trousseau d'hommes complet, y compris une chemise de nuit, et nous dîmes « Ils sont mariés ». Nous étions vraiment contents. Nous étions contents parce que les deux cousines étaient encore plus Grierson que Miss Emily ne l'avait jamais été. Nous ne fûmes donc pas surpris lorsque, quelque temps après, lorsque les rues furent terminées, Omer Bayron s'en alla. On fut un peu déçus qu'il n'y ait pas eu de réjouissance publique, mais on crut qu'il était parti pour préparer l'arrivée de Miss Emily ou pour lui permettre de se débarrasser des cousines. Nous formions alors une véritable cabale et nous étions tous les alliés de Miss Emily pour l'aider à circonvenir les cousines. ce qu'il y a de certain, c'est qu'au bout d'une semaine, elles partirent. Et comme nous nous y attendions, 3 jours ne s'étaient pas écoulés que Homer Bayron était de retour dans notre ville. Un voisin vit le nègre le faire entrer par la porte de la cuisine, un soir, au crépuscule. Nous ne revîmes plus jamais Homer Bayron, et pendant quelque temps, nous ne vîmes pas Émilie non plus. Le nègre entrait et sortait avec son panier de marché, mais la porte d'entrée restait close. De temps à autre, nous la voyons un moment à sa fenêtre, comme le soir où les hommes allèrent répandre de la chaux chez elle, mais pendant plus de 6 mois, elle ne parut pas dans les rues. Nous comprîmes qu'il fallait aussi s'attendre à cela, comme si cet aspect du caractère de son père, qui avait si souvent contrarié sa vie de femme, avait été trop virulent, trop furieux pour mourir. Quand nous revîmes Miss Emily, elle était devenue obèse et ses cheveux grisonnaient. Dans les années suivantes, elle devint de plus en plus grise, jusqu'au moment où, ayant pris une couleur gris fer, poivre et sel, sa chevelure ne changea plus. Le jour de sa mort, à 74 ans, ses cheveux étaient encore de ce gris fer vigoureux, comme ceux d'un homme actif. À dater de cette époque, sa porte resta fermée, sauf pendant une période de 6 ou 7 ans, alors que, âgée d'environ 40 ans, elle donnait des leçons de peinture sur porcelaine. Elle installa dans une des pièces du rez-de-chaussée un atelier où les filles et les petites filles, des contemporains du colonel Sartoris, lui furent envoyées. Avec la même régularité et dans le même esprit qu'elles étaient envoyées, à l'église le dimanche avec une pièce de 25 sous pour la quête. Cependant, elle avait été déchargée d'impôts. La nouvelle génération devint alors le pilier, l'âme de la ville, et les élèves du cours de peinture grandirent et se dispersèrent, et ne lui envoyèrent pas leurs filles avec des boîtes de couleurs, des pinceaux ennuyeux et des images découpées dans les journaux de dames. La porte se referma sur la dernière élève et resta fermée pour de bon. Quand la ville obtint la distribution gratuite du courrier, Miss Emily fut la seule à refuser de laisser mettre un numéro au-dessus de sa porte et d'y laisser fixer une boîte à lettres. Elle ne voulut rien entendre. Tous les jours, tous les mois, tous les ans, nous regardions le nègre devenir de plus en plus gris, de plus en plus voûté, entrer et sortir avec son panier de marché. À chaque mois de décembre, on lui envoyait une feuille d'imposition que la poste nous retournait la semaine suivante avec la mention « non réclamée ». De temps à autre, nous l'apercevions à une des fenêtres du rez-de-chaussée. Elle avait évidemment fermé le premier, semblable au torse sculpté d'une idole dans sa niche, et nous ne savions jamais si elle nous regardait ou si elle ne nous regardait pas. Et elle passa ainsi de génération en génération, chère, inévitable, impénétrable, tranquille et perverse. Et puis elle mourut. Elle tomba malade dans la maison remplie d'ombre et de poussière, avec, pour toute aide, son nègre gâteux. Nous ne sûmes même pas qu'elle était malade. Il y avait longtemps que nous avions renoncé à obtenir des renseignements du nègre. Il ne parlait à personne, même pas à elle probablement, car sa voix était devenue rauque et rouillée à force de ne pas servir. Elle mourut dans une des pièces du rez-de-chaussée, dans un lit en noyer massif, garni d'un rideau, sa tête grise soulevée par un oreiller jaune et moisi par l'âge et le manque de soleil. Le nègre vint à la porte recevoir la première des dames. Il les fit entrer avec leur voix assourdie et chuchotante, leur coup d'œil rapide et furtif. Puis, il disparut. Il traversa toute la maison, sortit par derrière et on ne le revit plus jamais. Les deux cousines arrivèrent tout de suite. Elles firent faire l'enterrement le second jour. Toute la ville vint regarder Miss Emily sous une masse de fleurs achetées. Le portrait au crayon de son père rêvait d'un air profond au-dessus de la bière. Les dames chuchotaient, macabres, et sur la galerie et sur la pelouse, les très vieux monsieur, quelques-uns dans leurs uniformes bien brossés de confédérés, parlaient de Miss Emily comme si elle avait été leur contemporaine, se figurant qu'ils avaient dansé avec elle, qu'ils l'avaient courtisée peut-être, confondant le temps et sa progression mathématique, comme font les vieillards pour qui le passé n'est pas une route qui diminue, mais bien plutôt une vaste prairie que l'hiver n'atteint jamais, divisée pour eux par les trois goulots de bouteilles des 10 dernières années. Nous savions déjà qu'au premier étage, il y avait une chambre qui n'avait pas été ouverte depuis 40 ans et dont il nous faudrait enfoncer la porte. On attendit pour l'ouvrir que Miss Emily fût décemment ensevelie. Sous la violence du choc, quand on défonça la porte, la chambre parut s'emplir d'une poussière pénétrante. On aurait dit qu'un poêle mortuaire, tenu et âcre, était déployé sur tout ce qui se trouvait dans cette chambre, parée et meublée comme pour des épousailles. Sur les rideaux de damas, d'un rose passé, sur les abat-jours roses des lampes, sur la coiffure, sur les délicats objets de cristal, sur les pièces du nécessaire de toilette avec leur dos d'argent terni, si terni que le monogramme en était obscurci. Parmi ces pièces se trouvaient un col et une cravate, comme si on venait juste de les enlever. Quand on les souleva, ils laissèrent sur la surface un pâle croissant dans la poussière. Le vêtement était soigneusement plié sur une chaise sous laquelle gisaient les chaussettes et les souliers muets. L'homme lui-même était couché sur le lit. Pendant longtemps, nous restâmes là, immobiles, regardant son rictus profond et décharné. On voyait que, pendant un temps, le corps avait dû reposer dans l'attitude de l'étreinte. Mais le grand sommeil qui survit à l'amour, le grand sommeil qui réussit à conquérir même la grimace de l'amour, l'avait trompé. Ce qui restait de lui, décomposé sous ce qui restait de la chemise de nuit, était devenu inséparable du lit sur lequel il était couché. Et sur lui, comme sur l'oreiller à côté de lui, reposait cette couche unie de poussière tenace et patiente. Nous remarquâmes alors que l'empreinte d'une tête creusait l'autre oreiller. L'un d'entre nous y saisit quelque chose, et en nous penchant, tandis que la fine, l'impalpable poussière nous emplissait le nez de son âcre sécheresse, nous vîmes que c'était un cheveu, un long cheveu, un cheveu couleur gris fer.